C'est un podcast Vivre FM.
Et on retrouve nos invités, on parle de ce grand pitch, ce concours d'art oratoire organisé par Pépite Emploi. Alors autour de la table, deux candidats, David et Lucie, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors David et Lucie qui se sont installés autour de cette table, qui parleront bien près du micro, sinon on n'entendra pas. Et puis nous avons également Johanna. Johanna, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes organisatrice de ce concours d'art oratoire et c'est une grande première. Alors quel est l'objectif? Nous on connaissait à Vivre FM le concours d'éloquence de l'association pour le bégaiement, contre le bégaiement, une association. Donc l'objectif de ce concours, c'est vraiment d'apprendre à parler, d'articuler et de parler avec éloquence malgré le bégaiement, ce qui est vraiment un handicap. Alors vous, ça n'a rien à voir.
Exactement, ça n'a rien à voir dans la mesure où nous avons fait le choix de donner la parole à des personnes en situation de handicap pour défendre un message, une conviction, une idée en lien avec le handicap. Leur objectif, c'est avant tout individuellement de se challenger par le concours d'éloquence, mais surtout de faire passer des messages et de sensibiliser.
Oui, et vous sensibiliser, puisqu'on est censé aller écouter ces interventions qui sont sur Internet, qu'on peut toujours retrouver, le concours est passé, mais on peut toujours écouter les interventions des différents candidats, ça dure 2-3 minutes, et on pouvait voter, alors là on ne peut plus voter, puisque le concours est terminé et que vous avez choisi 5 gagnants, enfin le public a choisi 5 gagnants. Alors David, vous pouvez peut-être commencer, vous avez été candidat sur ce concours.
Oui,
le grand pitch, parler bien près du micro, David, c'est pas évident, mais je sais, mais il faut se rapprocher. Voilà. C'est la première fois devant un micro?
Pas spécialement, pas devant. J'ai déjà été devant un public, donc ça me dérange pas.
Très bien. Donc vous vous êtes préparé pour ce concours d'art oratoire. C'était la première fois aussi ce type de concours?
Alors oui, tout à fait. Surtout qu'en plus, mon handicap, moi, je l'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Franchement, c'était un défi à faire au moins une fois. Et je suis très heureux d'y avoir participé. Donc je pense que même tous les autres candidats, s'ils avaient pu être là, pensent la même chose que moi. Parce que c'est quand même quelque chose d'unique en son genre. Une grande première.
Mais pourquoi vous êtes décidé, je vais faire un concours d'art oratoire, qu'est-ce qui s'est passé?
Je pense qu'aujourd'hui, le handicap pour beaucoup de gens est toujours un mystère ou un mal. Et je pense que c'était moi, je suis quelqu'un qui aime bien revendicatif. Et du coup, pour moi, c'était vraiment un défi de nous donner la parole et de faire découvrir qu'on a beau être handicapé, mais on s'exprime et ça fait du bien. C'est surtout, c'est vraiment, ça fait du bien, ça nous libère, ça permet de nous exprimer librement et de sensibiliser justement. Et je pense que c'est un défi qui est à faire, je pense, au moins une fois dans sa vie.
Oui, oui, oui. Vous, quel est votre handicap, si je peux vous poser la question?
Alors non, moi, j'ai aucun problème pour en parler. Je suis bipolaire. Si vous avez besoin d'un peu plus de détails de ce qu'est un bipolaire, c'est que vous passez par des étapes de dépression et par des étapes d'euphorie où vous pouvez être hyper heureux dans votre vie, tout va bien, tout ça. Et du jour au lendemain, tout va mal, vous voyez tout noir et voilà. Et c'est un handicap en plus qui est invisible, donc voilà. Je n'ai pas de remords à en parler. Je pense qu'il faut en parler.
Oui. Est-ce que vous avez besoin d'aménagement sur votre poste de travail? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites pour vous aider ou est-ce qu'il n'y a rien à faire? Il faut juste savoir pour comprendre et accepter.
Moi spécialement, j'ai pas forcément besoin d'aménagement. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est propre à soi-même. Surtout avec certains handicaps, il y en a certains qui vont peut-être avoir besoin d'aménagement de temps de travail et autres. Moi non, moi pour mon cas personnel en tout cas, je n'ai pas eu de besoin d'aménagement de poste.
Oui, oui. Et donc vous avez participé à ce concours, vous vous êtes décidé quand?
J'ai une des personnes qui a fait l'organisation qui m'a appelé un matin. Oui, bonjour, on fait un petit concours oratoire sur le handicap, est-ce que ça t'intéresse? Je peux te laisser réfléchir. Non, non, c'est bon, j'y vais. J'y vais, j'y vais.
Yona, Yona, c'est
oui,
vous.
Effectivement, alors pour expliquer un peu le coulisses, Pépite Emploi, en fait, accompagne des candidats en recherche d'un emploi, d'un stage ou d'une alternance. Et donc, assez naturellement, quand on a eu cette idée du grand pitch, eh bien, on s'est dit, on va aller proposer à ces candidats qu'on a déjà accompagnés sur l'art de la prise de parole. Là, c'était dans la perspective d'un entretien d'embauche. Et on leur a dit, est-ce que ça vous dirait de remettre ça, mais cette fois avec un objectif qui est celui de la sensibilisation au handicap. Et effectivement, on imaginait avoir beaucoup de mal à trouver 20 candidats et on a quasiment eu 100% en fait des personnes à qui on a proposé qui nous ont dit oui. Et en fait, pour la petite anecdote, pour vous dire, ensuite quand on en a parlé aux entreprises, les entreprises nous disaient « mais au fait, qu'est-ce qu'ils ont à gagner ?» Et à chaque fois, on leur disait « Ah, c'est drôle, aucun candidat ne nous avait posé la question. »
Oui,
c'est vrai.
On a fini par trouver des lots, mais c'est pour vous dire que, à quel point ce n'était pas la démarche. La démarche, c'était de donner la parole, en fait, à non pas des conférenciers ou des experts, mais juste des vraies personnes qui ont des choses à dire.
Oui. Oui, et donc vous êtes tous, tous ces candidats ont trouvé leur intérêt à participer et aucun n'a regretté. Lucie, est-ce que vous pouvez vous approcher du micro? Lucie qui n'a pas encore parlé et donc qui est également candidate. Enfin, vous avez présenté une petite vidéo, vous avez enregistré un discours sur le handicap. De quoi avez-vous parlé, Lucie?
Alors moi, dans cette vidéo, j'ai parlé du handicap invisible, puisque je souffre de deux handicaps invisibles. Et j'ai voulu accentuer sur les moyens de transport. En fait, j'ai une carte priorité.
Oui.
Et je me suis rendu compte qu'il y avait peu de gens qui montraient cette carte. Et moi, je la montrais, mais à des moments, j'avais des mauvaises réactions. Par exemple, j'ai dû parler en anglais, puis en espagnol, pour que la personne comprenne. Et puis finalement, c'est une dame en face qui m'a laissé la place. Donc moi, j'ai vraiment axé cette partie-là.
Les personnes ne comprennent pas, vous pensez, ou alors ne veulent pas bouger?
Je pense que dans ce cas-là, c'était ne veulent pas parce que je suis jeune, j'ai 25 ans. Et avoir un handicap invisible avec cette carte-là, c'est pas logique. Et du coup, ça a des conséquences aussi dans l'entreprise. Les mêmes réflexes, les mêmes difficultés à concevoir ce handicap-là. Et j'ai aussi un trouble des apprentissages qui fait que ça c'est depuis que je suis petite. Et qui demande aussi des aménagements. Par exemple, là, pour la maladie invisible, j'ai un fauteuil ergonomique. J'ai un bureau qui monte et qui descend. J'ai besoin d'alterner la position assise debout. Et ça amène aussi une fatigabilité. Deux handicaps par exemple, et c'est un sujet qui est quand même un petit peu tabou, c'est pas toujours facile de l'aborder, tout dépend de notre interlocuteur en fait.
Oui, donc vous avez cette crainte d'en parler, c'est ça, ça fait une appréhension pour en parler, c'est ça, et ce concours d'éloquence, d'art oratoire, vous pensiez que ça pouvait éventuellement vous aider?
Alors là je vais revenir à Diversidé, l'accompagnement que j'ai eu, qui m'a vraiment été un déclic pour savoir comment intégrer ce handicap dans mon pitch de job pour avoir un entretien. Et là, ça a permis de terminer le process avec la vidéo pour aller pour être vue par tout le monde. Et en plus, j'ai décidé de m'impliquer encore plus pour, on va dire, vendre cette vidéo sur LinkedIn. Côté de mon réseau. Et ça, c'est quelque chose qui était impossible au début. Et là, j'ai réussi à le vendre. J'ai eu des très bons retours. Et là, ça permet vraiment de casser ce tabou-là et de se dire, faut être visible, faut qu'on parle au nom des gens qui n'ont pas forcément notre tchatch,
oui.
Notre sourire, qui n'ont pas forcément l'opportunité de rencontrer Johanna. Et mon handicap invisible peut résonner à plein d'autres handicaps. Et moi, sincèrement, j'attends qu'il y ait une prise de conscience de la société, des pouvoirs publics, de tout le monde, des handicaps invisibles. Et pour parler par rapport à ma vidéo, ce serait vraiment dans les transports en commun, qui est là. J'ai contacté la RATP, la SNCF, pour essayer vraiment qu'on fasse quelque chose tous ensemble pour tous se préparer aux JO de 2024. Parce qu'il va y avoir les JO de 2024, il faut que tous on se prépare. Et 80% des handicaps sont invisibles. Donc c'est vrai que je voyais une personne aveugle dans le métro, donc je l'ai un petit peu aidée. ou non-voyante. Et puis je lui explique, bah voilà, moi j'ai un handicap invisible, donc je vais devoir m'asseoir en attendant le RER. Et puis après, c'est drôle, et je me rends compte que elle, c'était normal qu'elle voyait pas mon handicap puisqu'elle était aveugle.
Oui.
Et là, j'ai réalisé qu'en fait, les gens autour de moi, ils étaient autant aveugles que la personne qui était aveugle, mais due à son handicap face à moi.
Oui.
Et là, j'ai eu un déclic, je me suis dit, waouh, quand même. Donc c'était une très belle opportunité, et merci de nous accueillir ici. Et je pense que j'ai essayé de contacter d'autres adultes. Voilà, j'aimerais bien que tout le monde s'empare de cet enjeu, en fait, qui est au final national, parce que ça ne concerne pas que moi, jeune de 25 ans, ça concerne aussi la personne qui a d'autres difficultés, ou une personne âgée, ou des gens qui augmentent dans la vieillesse, mais que ça ne se voit pas trop encore. Par exemple, qui sont peut-être en avance par rapport à leurs collègues, et ainsi de suite.
Oui,
voilà.
Et Lucie, c'est bien d'en parler, continuellement, enfin régulièrement. On a déjà consacré une émission au handicap invisible et les difficultés que rencontrent les personnes qui ont une carte prioritaire, mais qui ne parviennent pas à passer avant sur les caisses dans les supermarchés ou dans les transports en commun, qui se font parfois insulter. Hein, c'est parfois violent.
Oui, surtout quand, une fois, j'étais pas en capacité psychique et physique de parler, et j'ai montré ma carte, et là, je me suis fait agresser, et j'étais pas en capacité, j'en pouvais plus, je devais m'asseoir. Habituellement, je monte ma carte, je me dis, je me permets de vous demander de vous déranger, de vous demander la place, mais même ça, c'est, je le fais, mais des fois, quand je suis fatiguée, bah, j'ai pas envie d'aller déranger les gens, en fait. J'aime pas déranger les gens, je suis jeune. Et puis des fois, on s'assoit et puis c'est la mamie de 60 ans qui nous dévisage. Alors que je lui ai même pas demandé la place.
Oui.
Donc
oui,
voilà, c'est un ensemble.
Il y a un jugement.
Oui. Oui.
Et jugement de personnes qui ne savent pas et qui pourtant se permettent de juger. C'est très dur à supporter pour vous.
Exactement. C'est, même si on me dit... Bah écoutez, il faut faire abstraction du jugement. On ne peut pas changer les gens, c'est pareil dans le travail, on ne pourra pas. Mais en même temps, il faut bien que je travaille, donc il faut que j'aménage les gens avec qui je travaille. Donc c'est de la formation en permanence. Et moi, ce que je dis, on est femme, on est handicapée et on est activiste en même temps. C'est de la survie, en fait.
Oui.
Et je pense que j'ai quand même de la chance par rapport à certains qui n'ont pas ces capacités à s'exprimer avec aisance. Et heureusement que vous êtes là et que tout le monde est là, mais il faut vraiment qu'on se prépare pour les JO 2024, vraiment.
Ouais, ouais. Un dernier mot sur ce sujet. Cette carte prioritaire, elle ressemble à quoi? Parce que tout le monde ne la connaît pas. C'est une carte... oui, elle ressemble à quoi?
Donc la nouvelle version, c'est un format comme les cartes d'identité.
Oui.
Donc il y a la photo de la personne... ça se décline sur
trois visuels différents, non?
Trois catégories.
Oui.
Désolée, je ne suis pas une pro. Hein. Si tu veux compléter.
J'avais un doute aussi.
David.
Oui, tout à fait. Ouais, je crois que c'est trois catégories.
Il y a la carte priorité.
Moi, je ne l'ai pas personnellement, du coup. Mais...
Il y a la carte invalidité. Et il y a la carte invalidité avec accompagnant.
Station debout pénible.
Et
avec ou sans accompagnant.
Mais visuellement, puisque les gens n'ont pas le temps de, quand on montre cette carte, les gens n'ont pas le temps de lire, je pense qu'il y a des couleurs à identifier, il y a des couleurs particulières, non?
En fait, elle est bleue.
Elle est bleue.
Oui, en fait, si vous voulez, elle fait la taille d'un permis de conduire ou de la nouvelle carte d'identité, et elle est bleue. C'est une carte européenne, en fait. Et on la voit souvent parfois sur les parkings de magasins de grande surface pour ceux qui sont sur les places prioritaires, justement. Et ça ressemble à ça. Je vous en supplie, quand vous voyez effectivement une personne vous la présenter, d'être aimable de laisser cette place-là. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est un besoin...
Ça paraît la moindre
c'est pas
des
de
choses.
Hein,
et pourtant, c'est pas naturel pour beaucoup de gens, malheureusement, pour vous, Lucie.
Je veux dire, par rapport au logo, c'est vrai qu'en fait, c'est là où il y a une représentation d'image. Les gens, ils voient ma photo en noir et blanc, ils voient ma tête, et puis après, j'insiste avec la carte, et puis après, je leur montre le logo handicapé. Mais c'est un logo en fauteuil roulant. Donc là, c'est vrai que j'imagine les gens, ils ne doivent rien comprendre. Elle est jeune, elle n'est pas en fauteuil roulant, elle n'y est ni aveugle, elle ne représente pas le logo. Mais effectivement, il y a un temps de...
d'incompréhension oui.
Je pense.
Oui, oui.
C'est pas que de la méchanceté, hein, mais...
Il y a de la méfiance, il y a de l'incompréhension. Et il faut en parler, justement, et c'est ce que vous faites grâce à ce concours d'art oratoire, Lucie. On va faire une petite pause, Lucie, David et Ioana, et on continue à parler de votre travail, Ioana, avec Pépite Emploi sur ce concours d'art oratoire, et puis Lucie, David, et puis on aura tout à l'heure un autre participant à ce concours, de ce que vous avez pu mettre en place, et ce que ça vous a apporté. Portée.
Vivre FM, la radio de toutes les différences. Get a girl, get a boy. One plus one, take a mind down to the shore. One plus one, give you all and give some more. One plus one, let the music free your soul.
Yeah, bunks and rungs.
Swing with me through the light. Hold me for just one night. Hold me for just one night. Oh.
C'est épatant
avec Carole Clémence.
Et nous parlons d'un concours original, un concours d'art oratoire, le grand pitch organisé par Pépite Emploi qui s'engage pour les personnes en situation de handicap, pour l'emploi de ces personnes, pour l'inclusion, donc un concours utile au handicap. Et on en parle depuis midi, depuis 13h jusqu'à 13h45 avec des participants de ce handicap. C'était en novembre, la finale c'était le 3 décembre. Arnaud, vous organisez, vous êtes partie de Pépite Emploi également, vous n'avez pas encore pris la parole. Arnaud, un petit mot, il y avait combien de participants sur ce concours ?
Bonjour à tous. Alors, il y avait 20 participants, donc qui étaient sur 5 catégories qu'on peut vous lister d'ailleurs, qu'on avait choisies, qui portaient sur des thèmes de sensibilisation à l'intégration du handicap en entreprise.
Oui.
Donc, les thèmes étaient pour ou contre la RQTH, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, mon handicap ne me résume pas, mon handicap est invisible, pas mes compétences, l'art de compenser son handicap et handicapé, ce n'est pas mon métier.
Très bien. Et alors, Joël qui vient de rentrer dans le studio. Joël, bonjour, vous étiez candidat. Quelle catégorie aviez-vous choisi ?
Bonjour, messieurs, dames. La catégorie que j'ai choisie s'intitule « Mon handicap ne me résume pas ».
Oui. Et alors, qu'est-ce que vous avez dit sur ce pitch ?
Qu'est-ce que j'ai dit sur ce speech ? C'est une très bonne question. En fait, c'était un message qui était destiné aux handicapés, mais pas seulement aux handicapés. Le fond du message, c'était de faire comprendre aux gens que nous sommes tous des super-héros. Peu importe les choses qu'on vit, peu importe les difficultés qu'on a pu subir ou le vis-à-vis des autres, nous avons tous en nous un super-pouvoir. Et d'ailleurs, j'aimerais aussi dire que j'ai été très bien entraîné par Arnaud, Johanna, qui m'ont aussi donné quelques idées, ce qui nous a permis de concocter une bonne sauce.
D'accord. Et donc, vous parlez de vous, en fait. Vous parlez de votre handicap sur ce pitch pour aider, pour sensibiliser les gens qui ne connaissent pas, particulièrement vos collègues, par exemple, en entreprise, c'est ça ?
Yes, je parle de mon handicap. Moi, je suis hyperactif.
Oui.
J'ai des problèmes pour me concentrer, mais je suis hyperactif. Mais j'ai réussi, si on peut dire, à dompter cet handicap en ayant confiance en moi, en ayant foi en moi. Et c'est vrai qu'il y a aussi des gens qui m'ont aidé. Lorsque je parle des gens, je parle de mon entourage, je parle du sport, je parle du théâtre, je parle du spectacle. Et je me suis jamais vraiment senti, enfin réellement senti handicapé. Parce que pour moi, être handicapé, c'est seulement un terme que l'humain a inventé. Et derrière, qu'on soit handicapé ou pas, on est tous les mêmes. Et nous sommes tous des super-héros. Mais seulement ceux qui y croient, bien sûr.
Et donc, cette hyperactivité, elle vous aide en quoi ? Puisque vous êtes un super-héros, ça vous donne des super-pouvoirs ?
Yes, ça me donne des super-pouvoirs et ça me permet d'aider les gens aussi plus rapidement. Ça me permet de transférer aussi des émotions lorsque je parle, de pouvoir être assez dynamique sur certains points, que ce soit lorsque je parle, parce que je suis vendeur aussi derrière, je suis responsable commercial, lorsque je vends des produits ou lorsque je suis en train de conseiller une personne, on sent qu'il y a de l'honnêteté, il y a de la sincérité et je pense que tous ces éléments et cet effet, je pense, est dû à mon handicap.
Oui, vous pensez que ça vous aide en fait ?
Ah, ça m'aide.
Mais alors, est-ce qu'il y a des effets négatifs ? Est-ce qu'il y a un handicap derrière ?
Yes ! Comme on dit, un super-héros, Superman, son défaut, c'est la kryptonite.
Et oui.
Et tout le monde a sa kryptonite, que ça soit vous, que ça soit moi. Et du coup, yes, j'ai aussi mon défaut, mais si je vous le dis...
On va l'utiliser contre vous, c'est ça ?
Ouais, j'ai peur de ne pas sortir vivant. Non, je vous embête. Non, mon défaut, c'est un problème de concentration, mais j'ai réussi à le dompter avec plusieurs outils. J'ai aussi des outils qui m'aident, des outils de concentration, de méditation, et ce qui me permet d'être productif et efficace derrière.
Ouais. Alors, peut-être pour aider des auditeurs qui seraient hyperactifs, il y a des trucs que vous conseillez comme ça ?
Yes, manger 5 fruits. Non, je vous embête. Ce qu'il faut faire, c'est que essayer de vous renseigner sur cet handicap, c'est super important. Je pense que la meilleure manière d'être un bon footballeur, d'être un bon président, d'être un bon ministre, d'être un bon journaliste, c'est de se renseigner sur le métier, c'est de se renseigner sur ce qu'on subit, sur la personne qu'on est. Et je pense qu'il faudrait d'abord se renseigner sur votre handicap. Par la suite, essayer de voir les outils qui correspondent à chacun et chacune. On est tous différents. Et moi, pour ma part, les outils qui me correspondent, c'est déjà de me réveiller très, très, très tôt, de commencer la journée avant les autres, de faire mon footing, de faire mon sport, de rentrer en méditation. Et déjà, en commençant la journée avant les autres, je suis déjà en symbiose et en corrélation avec moi-même, ce qui me permet d'être beaucoup plus concentré. Au niveau de l'entreprise également, j'arrête pas de mettre des chronomètres. En fait, toutes les tâches que je fais, j'essaye de me fixer un objectif, de me fixer une ligne de conduite également. J'essaye vraiment d'être discipliné parce que si je peux dire, s'il y a un problème avec les gens souvent qui sont hyperactifs, c'est que on a beaucoup trop d'énergie. On a énormément d'énergie. Et
pourtant, c'est bien d'avoir de l'énergie.
C'est bien d'avoir de l'énergie, mais lorsqu'on ne contient pas cette énergie-là, c'est pas bien. Du coup, c'est pour ça que c'est vraiment important d'avoir une ligne de conduite, de se fixer des objectifs et de savoir où dépenser chaque dose d'énergie.
Oui, et donc, vous avez exprimé une partie de tout ce que vous venez de nous dire sur ce pitch et vous l'avez présenté, ça a été publié sur le site du Grand Pitch et vous avez eu plein de réactions positives.
Yes, comme je dis, j'ai un petit cœur, moi. Toutes ces réactions positives m'ont fait dormir pendant 2 jours. Non, je vous embête. C'est vrai que... D'ailleurs, j'ai mis mon premier post sur LinkedIn et je l'ai mis en retard. Le post que j'ai fait, je l'ai mis en retard et j'étais étonné des retours, malgré que je l'ai mis le mardi et le vendredi, c'était la deadline. Mais malgré cela, j'ai eu énormément de retours. Là, actuellement, il y a à peu près 1100 et quelques vues. Sur, c'était mon tout premier poste. Hein. J'ai dû transpirer pour écrire un beau texte, un storytell. Et j'étais vraiment étonné par le retour que j'ai pu obtenir derrière. Et je tiens à remercier du coup tout ce monde, tous ces gens qui ont su partager, tous ces gens qui ont su se reconnaître dans le copywriting que j'ai pu mettre, dans le texte que j'ai pu écrire. Et je tiens également à remercier Arnaud et Johanna, ainsi que Justine, qui ont fait un très très bon boulot derrière. Parce que j'étais pas tout seul.
Et ça vous a apporté quoi finalement, cette participation au concours oratoire?
Ça m'a apporté quoi? Déjà, en faisant ce concours, on laisse un impact, que ça soit au niveau de nos proches, mais on laisse un impact beaucoup plus fort. Déjà, il faut savoir, c'est le premier concours, ça veut dire que ça restera, c'est historique. Et derrière, tous ceux qui écoutent, on sait qu'on a tous on subit tous des choses qu'on n'ose peut-être pas dire. Et moi, comme j'ai dit, lorsque Arnaud m'a appelé et m'a demandé de participer au concours, j'ai dit « j'y vais ». Et on s'est dit qu'on va essayer d'impacter au maximum les gens ou même ceux qui sont hyperactifs. On est pratiquement tous, enfin, je ne vais pas dire ça, désolé, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hyperactifs. Mon responsable, je le vois, il est également hyperactif. Mais comme je disais tout à l'heure, il n'y a que lorsqu'on se renseigne qu'on sait qu'on fait partie de telle catégorie. Mais c'est pas si négatif que ça, parce qu'en se renseignant, on peut trouver des solutions. Si on ne se renseigne pas, on ne trouvera jamais des solutions. Du coup, le but de participer à ce concours et ce que ça m'a apporté aussi, déjà, c'est un bien-être pour moi, déjà, personnellement, mais aussi pour les autres derrière. Parce que le message que je délivre, ce n'est pas un message personnel. C'est un message, bien sûr, qui parle de mon parcours, de mon vécu. Parce que si vous venez à l'écouter, vous verrez que je parle de mon parcours, de mon vécu, de ce que j'ai pu traverser. Mais derrière, je délivre également un message à tous ceux qui sont handicapés ou même à ceux qui ne le sont pas.
Et alors, vos collègues, par exemple, est-ce qu'ils ont vu ce pitch? Est-ce qu'ils sont au courant de votre handicap, de votre différence?
Il y en a quelques-uns qui sont au courant, mais
ils
ne le remarquent pas, parce que ça ne se voit pas. Parce que, comme je vous ai dit, j'essaie d'être énormément discipliné. Oui.
Vous êtes pro et vous arrivez...
C'est ça. Chaque matin, comme je vous ai dit, j'essaie de courir à 4-5 heures. Et je pense que c'est cette discipline qui me permet de vraiment redresser un peu le niveau et de faire en sorte que mon handicap ne se remarque pas. Mais après, moi, je le remarque lorsque eux ne le voient pas. Moi, je sais que je suis comme ça.
Oui.
Et voilà.
Et donc, on n'en avait pas parlé
À mon responsable. C'était d'ailleurs la première fois que j'en ai parlé. L'entretien se passait bien. Je me suis dit, Joël, tu tentes le coup, tout ça. Et je lui ai dit, je me souviens, pour anecdote, je lui ai parlé de mon handicap sous forme de métaphore. Je lui ai dit, par contre, ça m'arrive de temps en temps de prendre du temps pour certaines tâches. Mais cependant, c'est comme Usain Bolt. Lorsqu'il commence une course, il met du temps. Mais par la suite, il fait une bonne performance. Et il était resté bouche bée. Je pense qu'il s'attendait pas non plus à qu'une personne lui dise que voilà, je suis handicapé. Mais cependant, voilà, c'est comme Usain Bolt. Et tout le monde connaît Usain Bolt aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pu lui en toucher quelques mots au départ.
Et alors, vous avez une façon très intéressante de présenter votre différence, votre handicap. Ça vous a aidé de participer à ce concours Pépite Emploi? Vous a aidé justement à présenter les choses, à organiser les choses pour que ce soit attractif, que ça touche le public?
Yes, déjà, Pépite Emploi, il faut savoir qu'ils ont mis les aménagements nécessaires, qu'ils ont mis aussi les outils nécessaires derrière. Et pour ma part, il y avait Arnaud et Johanna derrière. Et Arnaud m'a également concocté quelques mots déclic, des mots clés qui m'ont permis de créer une bonne nourriture que tout le monde a pu déguster derrière.
Il y a des techniques derrière. Je m'adresse à vous, Joël, et puis après, je m'adresserai à Johanna et à Arnaud. Des techniques pour bien faire passer son message pour bien s'exprimer, des choses que vous avez apprises justement à cette occasion?
Ce que je sais, c'est que lorsqu'on emploie une phrase, il faut insister sur des mots vraiment importants pour vraiment que ça puisse rester dans le cerveau d'une personne et que pour aussi crier des sueurs froides. Et donc voilà, après au niveau de la technique, je pense qu'il faut être sincère envers soi-même, sincère envers les auditeurs. Et faut y aller, faut pas réellement avoir peur. Ou comme on dit, toute peur n'est pas négative. Et même la peur qu'on a au départ, que ça soit vous ou même les présidents ou les footballeurs lorsqu'ils parlent lors d'un interview, c'est une peur qui peut être convertie en bonne peur et en motivation derrière.
Oui. Arnaud, il y a des choses, il y a des techniques, des choses à ne pas faire, des choses à faire comme ça rapidement.
Après, c'est ce que disait Joël. Nous, ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on a accompagné les pitchers dans les réflexions et dans ce qu'ils voulaient dire, parce qu'on avait parfois des gens qui arrivaient en mode, moi, je veux dire je veux faire passer le message que le handicap c'est important par exemple ou je ne sais quoi. Et donc l'idée c'était d'aller aussi trouver des façons de le dire qui vont être les plus impactantes. Je me souviens avoir travaillé avec Joël évidemment. Son premier mot c'était handicap égale super pouvoir. Et du coup, bah, on est parti sur cette idée de super pouvoir, donc de super Joël, et donc de plein de choses comme ça. Et il a aussi pris un masque et qu'il a dévoilé pendant le pitch. Alors, je ne sais plus si vous l'avez dit, hein, www.legrandpitch.com, c'est toujours visible.
Toujours
vous pouvez toujours voir Joël, vous pouvez voir les 19 autres. Et vous verrez que ce qui est intéressant, c'est que chacun aborde finalement son handicap et la façon dont il le perçoit et le message qu'il veut faire passer à sa manière. Joël l'a pris sous l'angle du super pouvoir et du super héros. Et Agathe, qui a gagné aussi sur une des thématiques, elle nous dit « Mais justement, je ne suis pas une super héroïne. » Ils ne sont pas contactés l'un et l'autre pour dire le contraire de l'autre. Ça s'est fait comme ça naturellement. Ou encore Marguerite, qui a été un des coups de cœur du jury. Elle nous parle du handicap sans jamais dire le mot handicap. Je vous invite à aller voir sa performance. Puisqu'elle nous parle d'une commode qui a trois pieds ronds et un pied carré, ou le contraire, je ne sais plus. Mais enfin, l'important, c'est d'aller voir ce qu'elle le dit, et la façon dont elle le dit, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et je pense que c'est ça l'intérêt du grand pitch, c'est que sur 20 pitchs, vous avez 20 façons de le dire, et du coup, à un moment ou à un autre, quand on va regarder ces pitchs-là, on se retrouve forcément à, en effet miroir un petit peu, et à se retrouver dans un pitch ou dans un autre. Alors, il y en a qui... on a un président de la République aussi qui vient pitcher. Alors, un faux, hein, évidemment. C'est surprenant dans la façon dont sont perçues les choses. Il y en a à qui ça a beaucoup plaire, d'autres beaucoup moins. C'est ça qui est vraiment intéressant. Sachant que Joël fait partie de ceux qui ont fait quasiment l'unanimité, comme Agathe ou Marguerite, qui ont eu des scores assez impressionnants.
Voilà, sur ces 20 participants, il y a eu 5 gagnants.
C'est ça.
Alors, Joël.
Dont Joël, en effet. Il y a eu 5 gagnants et 2 coups de cœur du jury, en sachant qu'on a fait attention à pouvoir pondérer les likes aussi par un jury qui était composé de professionnels. Alors, un professionnel de la start-up, une avocate au barreau de Paris qui est une professionnelle de l'éloquence. Et puis Lilia Benchaban, qui est une personne qui est étudiante encore aujourd'hui, mais qui fait du stand-up autour de son handicap, justement.
Très bien. Et donc, Johanna, Joël a remporté sa catégorie. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui a fait qu'il a...
J'oublie juste la GFIP,
oui,
quand
voilà,
même. Ça serait pas bien que je les oublie. En plus, Guy, qui est délégué régional de la GFIP de Normandie, a été très participatif.
Pourquoi, selon vous, il a pu remporter sa catégorie? Qu'est-ce qui fait qu'il a plus marqué les esprits que d'autres?
Parce qu'il était bien coaché.
Oui.
En fait, Joël, il vous a répondu, il a dit quelque chose qui est hyper important, c'est qu'effectivement, il a fait le choix de parler de son histoire, donc il s'est dévoilé, mais surtout, en fait, il est allé sur un registre super universel, celui des super-héros. Ça parle à tout le monde, finalement, qu'on soit ou pas en situation de handicap, qu'on connaisse ou pas le sujet. Je pense que ce qui a touché, c'est qu'il a dit une vérité universelle, de façon créative, clairement très très éloquente. Encore une fois, nous, on a considéré qu'on a organisé un événement d'art oratoire. On n'a jamais noté les gens sur l'éloquence parce que voilà, c'est une autre compétence. Mais force est de constater qu'on avait des gens éloquents. Et puis enfin, je pense que c'est important de revenir aussi sur quelque chose. C'est que, Joël, il l'a dit, c'est une première fois. Alors c'est historique, j'espère. J'espère qu'on se le redira, qu'on se reverra à d'autres occasions. Mais effectivement, chacun avait cette page blanche. Aucun d'entre eux n'a discuté pour dire « toi, tu vas pitcher sur quoi ?» et « toi, tu vas faire ci et tu vas faire ça ?» Donc finalement, on avait 20 styles différents. Et Joël, il est sorti du lot, au même titre que certains autres, hein, parce que beaucoup d'humour, accepter aussi de donner quelque chose de son histoire personnelle sans tomber non plus dans le pathos, c'est-à-dire que personne ne nous fait pleurer, hein, c'est jamais larmoyant. C'est quelque part proposer une autre vision du handicap. Je le disais tout à l'heure, c'est pas celle des experts, c'est pas celle des professionnels du handicap, c'est juste celle des vrais gens avec des vraies histoires qui parlent à tout le monde.
Oui, oui. Joël, on va rester là avec vous. On va vous quitter. On vous félicite d'abord pour ce prix que vous avez reçu. Donc vous avez.
Merci beaucoup.
Voilà, Johanna là entre
dans
les mains.
Puisque pour tout vous dire, la finale a eu lieu en fait sur Teams parce que finalement bah voilà, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de nous réunir tous. Donc je lui remets en direct son prix.
Voilà, donc on vous remet un très beau prix en verre. Voilà. Et puis un CD, c'est ça ?
Non, c'est un bon d'achat.
Ah, un bon d'achat,
pour
oui,
faire plaisir pour cette fin d'année.
Merci beaucoup, merci à tous, merci à Johanna, merci à Arnaud, merci à tous les sponsors, à Carrefour et à tous ceux qui ont su regarder la vidéo, voter et aux gens aussi comme vous qui nous soutiennent.
Voilà, et bien, puis Joël, on peut plus voter pour vous, mais de toute façon vous avez gagné, mais on peut vous revoir continuellement. Ça va rester en ligne en permanence,
enfin, ça va rester jusqu'à la prochaine édition.
Jusqu'à la prochaine édition. Donc il y aura une prochaine édition, Johanna.
Exactement.
Voilà, donc ce sera en novembre.
Alors, c'est possible que ça arrive avant, on réfléchit à organiser ça autour du mois de juin.
Voilà. Est-ce que, pour participer à cette prochaine édition, est-ce qu'il faut s'inscrire ? Comment ça se passe, Johanna ?
Alors, côté candidat, effectivement, vous l'avez compris, on peut contacter Pépite Emploi. Notre vocation première, c'est d'accompagner les candidats vers l'emploi. Donc, quelqu'un qui est juste un candidat et qui ne souhaite pas participer au Grand Pitch peut contacter Pépite Emploi. Notre travail, c'est l'emploi et le handicap. Et puis, effectivement, bah, au fur et à mesure des coachings, si l'occasion se présente, on sera ravis de proposer le Grand Pitch aux personnes qu'on accompagne.
Oui, et toutes les personnes qui sont intervenues, elles ont une RQTH, elles ont une reconnaissance travailleur handicapé.
Exactement, c'est le point commun de toutes ces personnes. Pour certains, on les a accompagnés assez longuement sans jamais savoir quelle était la nature de leur handicap. Oui. Si ça ne vient pas dans les échanges, bah, finalement, ce n'est pas le cœur de notre sujet. En revanche, ils ont tous en commun d'être en situation de handicap, en effet.
Oui, alors Lucie nous a rejoint, Lucie, qui nous avait parlé de ses difficultés à présenter sa carte mobilité-inclusion, sa carte de priorité pour les personnes handicapées. Donc, elle vient de me l'attendre. Donc, une carte qui a plusieurs couleurs, qui montre l'Europe avec, effectivement, une personne en situation de handicap, une personne assise en fauteuil tout en haut. C'est une carte qu'il faudrait vraiment faire qui aurait montré le plus possible pour pouvoir aider les personnes qui la présentent à être reconnues comme telles et ne pas avoir des réactions négatives comme vous avez pu l'expliquer tout à l'heure, vous recevez des réactions négatives. Alors on revient sur ce concours d'art oratoire, vous y avez participé, quels ont été les retours que vous avez pu avoir de votre participation, Lucie ?
Alors, j'ai eu des commentaires sur LinkedIn. Quelqu'un m'a dit « tout est dit ».
Tout est dit.
On m'a félicité aussi pour le courage d'oser aussi clairement dire ce que je vis au quotidien. Mais ce que... Je n'ai pas de chiffres, mais je ne suis pas la seule à le vivre. Et ça, ça fait du bien aussi.
Oui.
De se sentir pas seule, c'est ça.
Oui, oui, vous avez eu beaucoup de réactions de personnes qui vivaient les mêmes choses que vous.
Un certain nombre, pas tous, mais en tout cas, j'ai senti un soutien des personnes qui m'ont félicité. Et ça, ça fait du bien de ne pas se sentir seule, parce que dans le métro, on se sent vraiment seul. Ou même, des fois, au travail, on ne se sent pas forcément compris. Il peut y avoir des malentendus, des interprétations. Donc, c'est vrai que c'est intéressant pour voir cette vidéo. Et moi, je pense que pour mes futurs recruteurs, je les invite vraiment... Je dis, écoutez, déjà, allez voir ma petite vidéo. Puis comme ça, il y a déjà une formation, une sensibilisation qui est faite. Et je n'ai pas besoin de répéter aussi sans cesse la même chose. C'est vraiment dans ce but-là aussi. J'ai formé. Je le fais avec le sourire et ainsi de suite. Mais bon, il n'y a pas marqué formateur sur ma tête.
Oui.
Je suis commerciale. Et
vous cherchez un emploi en ce moment, Lucie ?
Alors, je suis en deuxième année de BTS NDRC. Donc, NDRC, c'est négociation, digitalisation de la relation client. Donc, c'est vrai que ce projet-là... Ça faisait presque partie de ma formation, donc ça s'intégrait parfaitement avec des super coachs. Et ça a un apport tellement très très fort en fait, par rapport à... On s'adresse au public cible et ça fait tellement du bien de s'exprimer enfin.
Et alors c'est un sujet qui vous touche énormément, qui est avec beaucoup d'émotion de votre part, et comment on peut faire passer un message sans mettre trop d'émotion, il y a tellement à dire, comment vous faites pour faire passer un message de manière simple et efficace?
Je me suis rendu compte, au début je voulais pas parler d'émotion, je voulais parler par exemple dans le monde du travail, parler qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire, sans nommer mon handicap, sans étant très factuel. et je me suis rendu compte que ça ne suffisait pas. Et du coup, j'ai dû en venir à l'émotion, au storytelling. Et là, comme on a vu dans les vidéos, par exemple de, de Agathe, de Gagnante, c'était un très beau storytelling et elle a gagné.
Oui.
Mais je sais pas, l'empathie. Moi, je trouve que c'est un élément extrêmement important. L'empathie qu'on a eue avec vous, le respect, le non-jugement. Et c'est pour ça qu'on s'est livré avec tant de simplicité, en fait, sans gêne. Et ce qu'on attend, on aimerait bien avoir cette capacité de pouvoir se parler du handicap sans gêne face à des gens qui n'en ont pas peur aussi. Parce que si nous, on va des fois pas forcément dire toutes les informations ou se sentir mal à l'aise, c'est aussi des fois parce qu'on a notre recruteur en face ou la personne qui est mal à l'aise. Et effectivement,
ça vous est arrivé, ça?
Oui, ça m'est arrivé. Et pourtant, vous voyez, je suis quelqu'un d'assez spontané.
Oui, oui.
Et on ne sait pas ce que vont faire les gens de certaines informations qu'on donne aussi, parce qu'on se dévoile et jusqu'où se dévoiler. Parce qu'en fait, on ne va jamais faire assez. C'est ça aussi, c'est on n'en dit pas assez, on en dit trop. C'est dur de trouver l'équilibre, que ce soit dans la sphère personnelle, familiale et de formation. Voilà, on est dans presque de l'improvisation en ajustement permanent, c'est l'humain en fait.
Il faut aussi comprendre la personne qui est en face, et savoir, il faut essayer de deviner ce qu'elle est en train de penser, comment elle perçoit les choses, c'est pas évident.
Aussi.
Ça change à chaque interlocuteur.
Exactement, aussi. Donc...
Peut-être ajouter, ouais. Je pense que ce qui est important à la fois dans les pitchs et à la fois dans le travail sur la valorisation du parcours professionnel, c'est justement que les candidats savent eux ce qu'ils veulent dire. Et je pense que c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup. Comment est-ce que je parle de ma situation de handicap ou pas, hein, puisqu'il n'y a vraiment pas de caractère obligatoire. Mais quand on se sent capable d'en parler et qu'on sait comment on va répondre à cette question-là, déjà on est préparé. Alors après, à la raison, Lucie, il y a toujours une part de spontanéité, d'improvisation évidemment, mais pour le reste je pense qu'au mieux on est préparé, au plus on sera à même de se présenter sous son meilleur angle en fait, et je pense que c'est ça qui est important, et j'en profite lâchement d'avoir le micro pour préciser qu'on a quelques belles histoires à raconter quand même, parce qu'on a une jeune femme qui est Aurélie qui a pitché, qui est une pépite, qui a trouvé un emploi un peu par l'intermédiaire du grand pitch, puisqu'elle est aujourd'hui chez Carrefour, au poste d'hôtesse de caisse. On a Agathe qui a gagné, dont Carrefour est tombé sous le charme, et je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Alors, je cite Carrefour, mais il y en a d'autres.
Oui, puisqu'il y avait une douzaine d'entreprises.
Oui, c'est ça, on avait une douzaine d'entreprises, dont principalement, on peut peut-être citer Carrefour, Elior, L'Essec et l'INRIA, qui ont été des partenaires, on va dire, privilégiés.
On a aussi David, qui a fait son duodet à l'INRIA, grâce au grand pitch.
Ah, très bien. Oui, donc c'est quelque chose qui est vraiment utile aux candidats comme vous, Lucie, comme David et Joël qui sont passés. Alors, on arrive au terme de l'émission. Je vais vous demander un dernier mot d'Arnaud ou Johanna.
Peut-être pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Oui, alors bien, je pense que clairement, ça a été très utile aux candidats. Ça a été aussi très utile grâce aux candidats. Ça a été très utile aux entreprises, aux personnes qui composent les entreprises, parce que ça a été l'occasion pour la plupart d'entendre parler pour la première fois de certains sujets. Voilà, on n'arrivera pas à tous les citer, mais quand Maïmouna nous dit « voilà, je vais vous parler, je suis schizophrène », non, ne partez pas, moi aussi j'ai eu peur quand on me l'a dit. C'est absolument génial. Et il y a qu'une personne, voilà, qui fait preuve d'audace et qui s'assume, qui peut dire un truc pareil. Donc voilà, je pense que s'il y a bien un mot qui résume toute cette opération, c'est l'utilité.
Oui, oui. Et donc, ce grand pitch, on peut retrouver les différentes candidatures, les différents pitchs des candidats sur...
Le grand pitch. Donc, www.legrandpitch.com.
Très bien. Merci à
merci
tous.
À
merci de votre
d'avoir participé à cette émission.
C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.